Bonsoir. Lors de sa rencontre le 22 février dernier avec les membres de l'Union sacrée de la nation, le président Félix Tshisekedi a annoncé la constitution imminente d'un gouvernement d'union nationale. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de dépasser les divisions internes pour affronter les menaces extérieures. Il a également souligné la nécessité pour la classe politique de ne pas se laisser distraire par des querelles internes, des manipulations extérieures et des relents tribaux. Objectif visé à travers la formation d'un gouvernement d'union nationale est celui de mobiliser toutes les forces politiques et sociales pour faire face à l'agression dans l'est de la RDC. Dans cette perspective, Félix Tshisekedi a chargé son conseil spécial en matière de sécurité d'entamer les consultations nécessaires avec la classe politique, la société civile et les autres forces vives afin de dégager un large consensus pour y parvenir. Cette initiative du chef de l'État n'est pas de l'avis de certains membres de l'opposition qui estiment que cela ne serait qu'un nouveau partage de gâteaux plutôt qu'une solution au véritable problème du pays. Que pensez-vous de l'idée du président Félix Tshisekedi? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 5 mars 2025. Participe au débat Jean-Thierry Monsenepo, cadre du parti politique Convention des Congolais Unis, CCU en sigle, parti membre de l'Union sacrée, nation. Jean-Thierry Monsenepo, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi et bonsoir à tous vos invités de ce soir.
Faustin Kouakoua, secrétaire général adjoint en charge des provinces du parti politique SID, parti membre de la coalition La Moukia. Professeur Faustin Kouakoua, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous ceux qui nous suivent.
Ghislain Prince Kaloumé Béya, professeur de droit international public à l'université de Kinshasa. Il est également avocat au barreau de Kinshasa. Ghislain Prince, professeur Ghislain Prince Kaloumé, bonsoir. Professeur Kaloumé, bonsoir.
Allô?
Vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez, professeur Kaloumé? On a un petit souci avec sa ligne téléphonique. La réalisation va essayer de le rappeler. Vous êtes très nombreux à nous suivre à Matadi dans la province du Congo central sur la 102.0. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net, sur DSTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, au cours d'une rencontre tenue samedi 22 février dernier à Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé devant sa famille politique, l'Union sacrée de la nation, la constitution imminente d'un gouvernement d'union nationale afin de dépasser les divisions internes et faire face à l'offensive de l'FCM-23 et ses alliés du Rwanda. Cet appel à l'unité du chef de l'État congolais n'est pas accueilli à l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. Certaines figures de l'opposition estiment que répondre à cet appel serait une opportunité de pérenniser le pouvoir de Tshisekedi et non de trouver une solution au véritable problème de la RDC. Bertin Kassiama nous en dit plus.
Diversement apprécié dans le pays, l'appel à la cohésion nationale lancé par les chefs de l'État Félix Tshisekedi a davantage corsé la fermeté des quelques leaders de l'opposition congolaise, dont la plus récente est celle du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie PPRD en sigle. La formation politique de Joseph Kabila a exprimé son scepticisme vis-à-vis de l'initiative du pouvoir en place. À la suite d'une réunion politique tenue mardi 3 mars dernier à Kinshasa, le PPRD a affirmé que le gouvernement d'union nationale n'a jamais apporté une solution pérenne au problème de la RDC compte tenu de l'histoire du pays. Dans cette même perspective, les partis politiques en vol de Délice Sanga rejettent catégoriquement l'idée de prendre part à un gouvernement d'union nationale car, selon eux, nommer un gouvernement d'union nationale pendant cette période est une solution cosmétique qui n'attaque pas les causes profondes de la guerre dans l'Est de la RDC. De leur côté, les opposants Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Jean-Marc Kaboun Akaboun ont rejeté en bloc l'idée de participer à un gouvernement d'union nationale évoqué par le chef de l'État. Contrairement à d'autres opposants, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito s'est dit prêt à soutenir l'initiative de Félix Tshisekedi. Lors d'une interview accordée à Jeune Afrique, le président du Nouvel Élan a insinué que face au danger que courent les pays, tous les Congolais devraient soutenir les présidents de la République. Yves Mpunga, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2018, s'est dit partant à l'offre de la majorité au pouvoir pour un gouvernement d'union nationale, invoquant la nécessité de cohésion pour faire face à la situation sécuritaire du pays. Pour y parvenir, lors de son intervention à la 33e réunion du Conseil des ministres du vendredi 28 février 2025, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait savoir que son conseiller spécial en matière de sécurité a été chargé d'entamer les consultations nécessaires avec la classe politique et la société civile, ainsi que d'autres forces vives dans le but de dégager un large consensus.
Merci Bertin Kassiama. Jean-Thierry Moussenepo, je rappelle que vous êtes cadre du parti politique Convention des Congolais Unis, CCU en sigle, c'est un parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Qu'est-ce que d'abord vous pensez de l'idée du président Félix Tshisekedi de créer ou de constituer un gouvernement d'union nationale?
Merci beaucoup madame et merci Dr. Adi. Vous savez, le président Tshisekedi à l'agression étrangère qui menace la souveraineté de la RDC a pris la décision stratégique de former un gouvernement d'union nationale. Cette initiative vise à assembler toutes les forces politiques et sociales autour d'un objectif commun, défendre l'intégrité territoriale et renforcer la résilience nationale. Comme dans des grandes crises mondiales où des gouvernements de coalition ont été mis en place, cette démarche est un acte de patriotisme et de responsabilité pour éviter que les divisions internes ne profitent à l'ennemi. Au-delà de la réponse sécuritaire, le gouvernement qui viendra doit aussi être un levier pour des réformes et une meilleure gouvernance. En associant diverses sensibilités politiques, il permettrait une plus grande transparence, une gestion plus efficace des ressources publiques et une mobilisation accrue des partenaires internationaux. Ceux qui s'opposent à cette dynamique doivent comprendre que l'heure est à l'unité et non aux querelles politiciennes. Face à la guerre et aux défis économiques, l'union nationale n'est pas une option mais une nécessité pour garantir la stabilité et le développement du pays. Le président a rappelé la nécessité de dépasser les querelles politiciennes et les manipulations extérieures. L'opposition qui critique cette initiative doit comprendre que le moment est grave. Il ne s'agit pas d'un partage de postes, mais d'une mobilisation générale pour l'avenir du pays. Ceux qui refusent d'intégrer cette dynamique devront assumer devant l'histoire leur refus de contribuer à une unité nationale dans un moment aussi critique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pour donner un exemple, le Royaume-Uni a constitué un gouvernement d'union nationale pour vaincre l'Allemagne nazie autour de Winston Churchill. Félix Tshisekedi suit cette même logique de patriotisme et de responsabilité en mettant devant l'intérêt supérieur du pays au-dessus des intérêts partisans.
Alors ça serait quoi, par exemple, Jean-Thierry Moussenepo, la pertinence d'un gouvernement d'union nationale dans le contexte actuel? Quels sont les avantages?
Mais l'avantage, madame, c'est qu'en ce moment-là, nous aurons une possibilité de conjuguer tous les efforts autour de la question de la sécurité de la partie est de notre pays. Parce qu'il ne faudrait pas que de l'extérieur, nous sommes en train d'enregistrer agression et que de l'intérieur, les Congolais en général puissent avoir des divergences de vues en ce qui concerne la gouvernance. Puisque qu'est-ce que l'on observe aujourd'hui? Nous observons une différence dans la voie nationale qui concerne la condamnation de l'agression rwandaise. Il y a des évidences, et même à toute la communauté internationale qui s'est mobilisée pour décrire cette agression du Rwanda, il y a des citoyens congolais qui, malheureusement, sont pour la plupart recrutés dans l'opposition politique, qui disent qu'il y a une légitimité dans ce que fait le M23, qu'il y a une légitimité dans ce que font ces groupes armés dans l'Est, et tout cela a comme conséquence la légitimation, la nationalisation de la guerre. Et la conséquence serait que nous puissions être dans un cercle vicieux où on va nous dire plus tard que les Congolais entre eux se parlent, ça va donner lieu à des mitages et à des braquages, à des positionnements de ceux et celles qui demain seront la fleur de sel du M24, du M25, du M26. Nous devons cette fois-ci couper la tête du serpent et se mettre ensemble.
Alors, mais comment concrètement ce gouvernement d'union nationale va-t-il contribuer à résoudre la crise dans l'est de la RDC? Le gouvernement que nous avons actuellement, le gouvernement soumis Nouané, ne peut-il pas le faire?
Mais écoutez, le gouvernement de Madame est déjà en train de mobiliser non seulement les fonds mais les moyens qu'il faut sur le plan diplomatique mais aussi militaire, social également, pour répondre à tout ce qu'il y a comme nécessité en termes de besoins pour soutenir les militaires sur le front, pour soutenir les familles de ces militaires qui sont sur le front, mais aussi pour armer, déstabiliser et se déployer sur le plan diplomatique. Mais seulement, on ne peut pas dire qu'à soi-même, on a la responsabilité de défendre tout un pays et en mettant de côté les autres Congolais qui peuvent aussi avoir des idées et qui sont prêts à apporter leur grain de moulin qu'est la République démocratique du Congo.
Alors, on vous suit difficilement, Jean-Thierry Monsenepo. Est-ce que vous pouvez, bouger pour améliorer la qualité de la ligne?
Oui,
vous sortez en train de couper. Oui. On vous suit.
Voilà, donc j'étais en train de vous dire, madame, en réalité, aujourd'hui, le gouvernement Judith Suminwa est en train de travailler sur la mobilisation des recettes qui permettront non seulement de renforcer les armements nécessaires pour nos forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi à trouver des réponses sociales pour les familles et ces militaires qui sont sur le front, de renforcer les moyens pour des renseignements militaires et civils, mais aussi sur le plan diplomatique, le déploiement nécessaire qui aujourd'hui est en train d'engranger les résultats que nous enregistrons.
Et le gouvernement d'union nationale va apporter quoi de plus?
Justement, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'un groupe de Congolais, de la majorité parlementaire soit-il, peuvent à eux seuls avoir toutes les idées du monde pour résoudre ce problème récurrent. Parce que n'oubliez pas que nous sommes en train de parler d'une agression multiforme et qui a existé depuis les années 96 jusqu'à aujourd'hui. On parle d'une trentaine d'années. Donc il est important qu'à ce stade, étant donné que le président Félix Tshisekedi a décidé de couper la tête du serpent qui a toujours alimenté les multiples groupes armés qui sont en réalité le bras séculier de l'armée rwandaise, que toutes les forces vives puissent apporter leurs idées et leurs énergies. Parce qu'il est impossible qu'une nation puisse réussir à bouter hors de son territoire des ennemis lorsque non seulement à l'extérieur il y a une attaque, mais aussi qu'à l'intérieur il y a des mouvements de fragilisation des institutions et du régime.
On vous garde encore dans cette émission. Merci Jean-Thierry Monsenepo, professeur Faustin Kouakoua, secrétaire général adjoint en charge des provinces du parti politique SID, parti membre de la coalition La Mouka. Chez vous, à La Mouka, vous rejetez cet appel du chef de l'État. Vous confirmez cela?
Oui, madame, nous rejetons cet appel parce que nous tenons à faire remarquer que, d'abord, l'invasion du Congo ne commence pas avec la chute de Goma. Un homme d'État doit savoir voir loin et savoir prévenir les événements. Il y a un adage qui dit « Un peuple qui ignore son histoire est appelé à revivre la même chose. » Ici, nous ne pouvons pas prendre position en ignorant le péché originel qui a occasionné ces choses-ci. Ça fait partie de notre histoire. Nous avons combattu dans l'opposition, nous savions que tous notre pays était tout le temps menacé par le Rwanda et que tout le temps les troupes rwandaises entraient dans le pays. Que M. Tshisekedi ait accepté le pouvoir lui donné par les Rwandais, c'était déjà ce péché originel. Il devait savoir les conséquences de cet acte-là. C'est qu'il n'accepte pas jusqu'aujourd'hui, bien que Nanga l'a révélé tout hautement. Ça, c'est le péché originel. Deuxième chose, je le disais que l'invasion ne commence pas avec la chute de Goma.
Ça fait déjà des années que le président Fayoulou... Professeur Kouakoua, vous dites que le pouvoir lui a été donné par le Rwanda. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Mais par le Rwanda, genre, tout le monde le sait. Quand M. Kabila donne le pouvoir à M. Félix Tshisekedi, il est en connivence avec M. Kagame.
Vous avez des preuves?
Vous connaissez encore l'épisode de lui qui était président de l'Union africaine, qui avait annoncé qu'il venait demandant à la Cour constitutionnelle de ne pas publier des résultats. À ce moment-là, une délégation comment on appelait ça à l'époque, la majorité présidentielle était au Rwanda, pour pouvoir négocier avec eux, et qui a dit n'attendez pas que nous arrivions à proclamer déjà des résultats.
Alors pourquoi vous rejetez, quelles sont les raisons pour lesquelles vous rejetez cet appel du président
Tshisekedi? J'y arrive.
Il faut aller à l'essentiel, hein, parce qu'il faut tenir compte du temps.
Je disais que le président Fayoulou, plus d'une fois, pendant 5 ans, connaissant avec maîtrise cette situation, a appelé à ce que nous puissions nous mettre ensemble pour pouvoir faire face à cette situation, comme ça, monsieur vient d'évoquer le cas de Churchill. Qu'on se mette ensemble. Quelles étaient les réactions? Avec arrogance, on nous a dit qu'il n'y avait pas de crise au Congo. En nous insultant même, ils cherchent du travail. Aujourd'hui, les gens-là ont occupé un grand espace de notre pays. Les nouvelles au front ne sont pas bonnes. À côté, il y a une initiative prise par le père spirituel pour essayer de faire face à cette situation et nous mettre ensemble. Mais pourquoi ne pas appuyer cette initiative-là plutôt que de venir créer encore quelque chose qui, en fait, semble être une procédure qui veulent consacrer la partition du pays, que les uns prennent, comme on a connu ça entre 1998 et 2003, avant qu'on aille à San City, cette partition a été, nous avons vécu ça comme ça. D'un côté, l'Est était occupé par justement CNDP et consorts, et le gouvernement du Congo occupait l'Ouest et l'Est, et le Sud, pardon. Et c'est ça que moi j'ai l'impression qu'on voudrait faire. Pourquoi zappe-t-on l'initiative des évêques qui en fait aussi cherchent justement que nous nous mettions ensemble, que nous discutions pour éviter le pire?
Alors l'initiative des évêques, c'est pour aboutir, si je pense bien, à un dialogue au niveau national. Alors que le chef de l'État, selon mon entendement, n'a pas besoin de ce dialogue-là, mais il veut former un gouvernement d'union nationale, raison pour laquelle il a confié la tâche à son conseiller spécial en matière de sécurité de pouvoir consulter la classe politique congolaise et même la société civile.
Madame, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, surtout que beaucoup ne sont pas d'accord, qui réglera le problème si la manière de faire reste la même. Ici, nous savons déjà qu'il y a une force qui vient là-bas. Nous voyons de nos yeux comment nos forces armées sont en train de décrocher. Nous le voyons, nous le vivons. Ce n'est pas en mettant un gouvernement d'union nationale avec les mêmes manières de gouverner qui laisse à désirer que la situation va être renversée. Pourquoi ne pas appuyer l'action qui est sur le terrain, qui voudrait que tout fils et fille du Congo, nous nous mettions ensemble. Les mesures qui seront prises, si ce gouvernement qui est là en place fait rester, on lui dit faites ceci, faites ceci, faites cela à l'issue de ce dialogue. Voilà la solution. Parce que quand nous nous mettrons tous ensemble, nous allons baliser le terrain et répondre aux vraies questions que nous vivons dans le pays. Ça, c'est comme on dit mettre le charret et le bœuf devant la charrue et vous précipitez pour pouvoir créer un gouvernement d'union nationale. Quand c'était encore opportun, non, les gens ont rejeté ça d'un revers de main. Maintenant où c'est trop tard, ça ne va rien apporter. Mettons-nous ensemble parce que tout le monde a vu que par la guerre, la solution ne viendra pas. Par le moyen aussi diplomatique, les accords, la solution ne viendra pas. Alors, l'initiative entre Congolais peut apporter quelque chose. Mettons-nous ensemble autour d'une table, autour de nos pères spirituels, balisons les terrains, donnons-nous la réponse aux vraies questions fondamentales et nous allons arranger les choses.
Alors, la finalité pour vous, après ce dialogue, ce n'est pas nécessairement d'avoir un gouvernement d'union nationale.
Non, nous n'avons jamais pensé que le gouvernement d'union nationale doit être d'abord la priorité ou la solution. Il y a d'abord le vrai problème, nous regarder face à face. Regardons, nous avons lancé dans l'appel du président Martin, nous avons posé le problème de la question de l'intégrité territoriale. Pourquoi y a-t-il toujours des problèmes? Réfléchissons là-dessus. Parce que, comme je viens d'évoquer, un peuple sans histoire, c'est un peuple qui est appelé à revivre les mêmes choses. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait toujours insécurité à l'Est? Premier problème. Deuxième problème, c'était la question relative aux droits humains. Pourquoi est-ce qu'il y a des frustrations qui entraînent que des gens puissent même recourir aux armes? Troisième problème, la gouvernance. Pourquoi y a-t-il des détournements, des gens se servent même au détriment de la population et personne n'agit? Quatrième problème, est-ce que nous nous rendons compte que la question de l'illégitimité à la tête de l'État qui passe par les institutions qui sont politisées nous pose beaucoup de problèmes? Donc il faut réformer les institutions et par là, arranger des problèmes des élections qui, demain, doivent donner des gens réellement élus par la population pour éviter, justement, tous ces problèmes. Voilà pourquoi, si vous réglez ces choses-là, vous entrez, comme normalement, tout État démocratique est géré, dans un processus qui va apporter la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on tourne en rond pour revenir dès qu'on va se sentir, voilà, on a pris un peu de plume. Alors, qui est celui qui va me dire, moi, garant de la nation, de ne pas faire ceci?
Merci. Inacceptable. Professeur Kwakwa, Faustin Doucha, juste vouloir partager le gâteau pour vouloir apaiser certains esprits faibles qui ont l'appétit de diriger. Pour moi, c'est un piège à l'opposition pour que le président partage son échec avec cette dernière Alberto Kiss. Quitte si ça, voilà, le prof Faustin Kwakwa a raison, ce régime a totalement échoué. Merci à Daniel Morichaud qui nous suit depuis Kisangani dans la Tchopo. Dengo Kapupa, vous êtes à Uvira, au sud Kivu. Bailon Umpungu depuis Luena. Merci également à Hassan Ngoi qui nous suit depuis la ville de Kalemie dans la province du Tanganyika. Ghislain Prince Kaloumébé, professeur de droit international public à l'université de Kinshasa, vous êtes également avocat au barreau de Kinshasa à Gombe. Professeur Kaloumé, qu'est-ce que vous pensez de cet appel du président de la République à son portail aujourd'hui d'avoir un gouvernement d'union nationale?
Merci beaucoup madame, je suis très heureux de participer à cet échange. J'ai suivi mes deux intervenants, M. Thierry Moussenem et professeur Kwakwa. Sur les plans purement légal, le chef également, le chef de l'État peut faire cet appel parce que il est le garant de tout, hein, vous savez. Le problème va se poser seulement lorsqu'il faut créer ce gouvernement. Qu'est-ce que les partis à l'accord politique qui viendraient tirer au regard de, des textes de la Constitution? Juridiquement, ces partis feront ces acteurs vont juridiquement intégrer la majorité présidentielle. C'est ça, en fait, parce que on ne peut pas nommer en dehors de la majorité. C'est vrai qu'il y aura un accord politique, le chef poursuit sa démarche, il va consulter, et lorsqu'il aura une nouvelle majorité, il y aura des entités extra parlementaires. Et en étant extra-parlementaire pour intégrer à la base, à la suite de l'accord politique qui résulte des consultations que l'État va faire, une nouvelle majorité va se dégager et dans laquelle il pourra, sans jouer la Constitution, intégrer ces personnes-là dans le nouveau gouvernement. Mais madame, il faut rappeler que le problème de gouvernement dans ces pays ici, c'est depuis 60 ans, lorsqu'il y a des revendications politiques, de société, économique, on intègre des partis qui n'étaient pas dans la majorité au départ, et ça constitue une nouvelle majorité. Donc ça, vous allez constater que sous le règne de Mobutu, on savait que c'était un grand dictateur, mais lorsque vous lisez bien l'histoire politique, il s'observe que à chaque modification de la Constitution, on prenait en compte les revendications des autres entités politiques qui, suite à une sorte de pression, devaient adhérer à la majorité et gouverner. Et effectivement, ce genre de solution a été trouvé. Déjà, après Lusaka, ainsi de suite, on a eu le RCD qui est venu partager le pouvoir, comme on l'a dit. Effectivement, c'est presque une réalité traditionnelle dans notre pays où, à un moment, lorsqu'il y a des conflits, c'est pas se mettre autour d'une table, trouver des accords. En réalité, c'est pour le partage du pouvoir. C'est une expression qui ne revient pas trop souvent, parce qu'aujourd'hui, la donne est différente, d'autant plus que nous avons une situation d'agression armée. On a un conflit international internisé où un État étranger utilise des supplétifs congolais pour justifier que c'est une affaire interne. En réalité, c'est une agression avérée qui peut être qualifiée ainsi. Mais maintenant, la question se pose, est-ce que si on négocie, par exemple, l'appel à un gouvernement national touche ceux qui ont pris les armes, qui ne sont pas belligérants, comment vont-ils intégrer le gouvernement de l'Union nationale? Ça posera un problème. Et politiquement, le problème peut être réglé par la négociation politique. Si le chef de l'État met les caps dessus, il semble qu'il a certaines autorités de ce pouvoir-là, il peut le faire et on peut arriver à un large consensus national. Consensus national. Mais en réalité, ça sera sûrement sur le partage du pouvoir, parce que l'expérience qui a été tentée sous le RCD, le MLC, vous savez, après le partage du pouvoir, il n'y a pas eu de projet de société. On a gouverné sous le leadership de Joseph Kabila, et jusqu'à la fin, il n'a pas pris une telle élection, il a pris le pouvoir, il a continué.
Mais comment justement, professeur Kaloumé, éviter que ce gouvernement ne soit perçu comme un simple partage du pouvoir?
Madame, il est impossible, parce que quand on accepte d'accéder au gouvernement, c'est le partage des responsabilités. Et automatiquement, on sortira du projet de gouvernement de Madame Soumine, même s'il avait un projet. Les autres qui viendront auront des revendications dans le même gouvernement. Et il faudrait établir un nouveau programme du gouvernement. Donc c'est presque illusoire de croire que, en allant vers ce gouvernement de l'Union nationale, en allant vers ces institutions qui auront intégré les autres partis, qu'on puisse faire abstraction des revendications de tous les autres partis, et même si on ne crée pas une nouvelle politique gouvernementale, mais seront rassurés que le poids politique, vous avez compris que ceux qui ont pris les armes voulaient conquérir plus de territoires pour avoir un poids politique dans les prochaines négociations. C'est la même réalité qu'avec le RCD et le MLC. Et le partage de pouvoir va se faire conformément au poids politique. Ceux qui n'auront pas de poids, n'auront pas de territoire, n'auront presque rien. Et vous savez que les mêmes problèmes s'est posé à un moment, mais parce qu'on devait partager moi-même les députés. Les députés, c'était difficile, mais c'était ça la réalité. Donc la même réalité nous rattrape aujourd'hui, malheureusement. L'autre option, c'est que Si nous arrivons à conquérir nos territoires occupés, on peut négocier différemment. Mais pour l'instant, il me semble que si on doit devenir une société économique de l'État, il faudrait impérativement passer par la négociation et malheureusement par le partage des postes de pouvoir. Et à l'époque, on disait partage équitable et équilibré. Donc je crois que l'arrêté nous rattrape aujourd'hui, hein, malheureusement nous rattrape aujourd'hui, mais il faut faire face avec. Aujourd'hui, on a un argument. Votre facilité en matière de territoire qui est occupée, aujourd'hui, on a une province et demie qui sont occupées ou qui est occupée. On croit que avec ce qu'on a engrangé comme succès sur le plan international des sanctions, on peut négocier différemment. On peut négocier différemment pour arriver à cette demande nationale. Merci beaucoup, madame.
Alors, l'opposition, pas toute l'opposition, hein, quand même, les grandes figures de l'opposition ont rejeté cet appel du chef de l'État. Ses opposants ont-ils raison de ne pas accepter cette main tendue du chef de l'État?
Bon, moi, je ne peux pas cracher sur leurs ambitions légitimes, c'est légitime, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation normale. On est dans une situation telle que c'est une période de crise grave. Ce n'est pas même pas une constitutionnelle. C'est une agression qui s'impose à notre État. Ce n'est pas une rébellion. Disons le mot comme ils doivent être utilisés. C'est une agression. Est-ce que face à l'agression, il faudrait que nos positions restent silencieuses? Je ne pense pas. Il faudrait qu'elles prennent le courage de s'associer au chef de l'État pour que nous puissions trouver des solutions internes qui peuvent faire que nous puissions mettre échec à l'agression. Aujourd'hui, comme l'agression a été identifiée comme telle au niveau interne et international, on est assez sûr que les amis de l'opposition peuvent facilement adhérer au projet, même s'ils ne partagent pas la vision du chef de l'État. Ils peuvent néanmoins adhérer au projet d'un gouvernement d'union nationale, parce qu'en réalité, quand on fait la politique, c'est accéder au pouvoir. Si vous accédez par la voie des négociations politiques telles que sous l'État proposé, tant mieux. Et quitte à vous de faire un effort pendant les prochaines élections 2028 pour rafler les postes les plus importants, tant mieux. Mais refuser et rester en dehors alors que les trains étaient en marche. Je me rappelle en 2001 ou 2003, l'État dit que les trains étaient en marche, il fallait les prendre. L'UDPS n'avait pas pris les trains. Il est resté en dehors. Vous connaissez les conséquences. Les militants sont partis. Il serait important que les amis qui sont dans l'opposition ou les partis de l'opposition saisissent la balle au bon, la petite de l'État, même s'ils sont dans la majorité. Ce n'est pas un problème, c'est juridiquement qu'ils entrent. Ils peuvent rester partis de l'opposition dans la majorité pour faire valoir leurs arguments.
Merci.
Mais votre dans les institutions, dans d'autres des institutions.
Merci, professeur Kialoumé. On va ouvrir notre standard pour prendre ces nombreux auditeurs qui nous appellent d'être partout, qui veulent participer aussi, ils veulent donner aussi leurs avis hein, dans cette émission, leurs avis sur le thème que nous abordons. Ce soir, on va se rendre dans quelle province, réalisation. Alors, on me signale qu'il y a un auditeur de Kinshasa qui est en ligne, on va l'écouter.
C'est Charles Kivata à Kinshasa. Moi, je dis ceci. Avant toute idée sur la formation du gouvernement d'union nationale, il faut d'abord un dialogue entre tous les Congolais, c'est-à-dire l'opposition armée, l'opposition non armée, le pouvoir en place et la société civile. C'est après ces dialogues qu'on peut faire ce gouvernement-là d'union nationale, qui pourra effectivement rétablir la paix. Mais s'il faut le faire avant le dialogue, ça ne va rien servir. Merci beaucoup.
Jean-Thierry Monsenepo, comment vous réagissez?
Merci beaucoup, madame. D'abord, je vous...
Si vous avez activé le mot de main libre, merci de le désactiver, Jean-Thierry Monsenepo.
D'abord, je voudrais dire à ma... Je viens de parler tout à l'heure qu'il n'y a pas une opposition armée en République démocratique du Congo. Nous sommes envahis par l'armée rwandaise qui utilise des mercenaires qui aujourd'hui s'appellent M23. Donc il n'y a pas de dialogue possible avec un tel format. Deuxièmement, madame, je voudrais revenir un peu sur ce que le professeur, au cadre de l'ECID, venait de dire. L'argument selon lequel Félix Tshisekedi aurait dû éviter toute interaction avec Kagame, dès les débuts de son mandat, repose sur une lecture simpliste et décontextualisée de la diplomatie. Un chef de l'État ne choisit pas ses voisins. Il doit gérer les relations internationales dans l'intérêt supérieur de son pays. Rétablir la coopération entre la RDC et le Rwanda en 2019 n'était pas un acte de naïveté de la part de Félix Tshisekedi, mais une démarche diplomatique pragmatique, fondée sur la nécessité de stabiliser la région des Grands Lacs après des décennies de tensions. La diplomatie préventive était une option logique. Il fallait sonder la sincérité du Rwanda et tenter de ramener la paix par des engagements mutuels. Ce n'est que lorsque Kagame a révélé sa duplicité et son agenda expansionniste, notamment avec la réactivation du M23, que Félix Tshisekedi a durci sa position. Alors, dire aujourd'hui que c'est Kagame, via je ne sais qui a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi, cet argument est un raccourci politique grossier, visant à discréditer la population congolaise et la légitimité démocratique de Félix Tshisekedi. Les élections de 2018 ont marqué la première alternance pacifique en RDC, et malgré les contestations, aucune preuve sérieuse, notamment de la part des CID, ne démontre ni que M. Fayulu a gagné les élections, ou que Kagame a joué un rôle direct dans la transmission du pouvoir. Si Kagame avait réellement installé Félix Tshisekedi, pourquoi le président congolais serait-il aujourd'hui son adversaire le plus farouche? Pourquoi l'Union africaine, les États-Unis et la SADC ont-ils validé son élection? Fayulu lui-même a été soutenu par certaines forces extérieures et a demandé une transition négociée plutôt qu'un combat démocratique en 2023, ce qui démontre une incohérence dans leur discours.
Alors, est-ce qu'on peut et revenir sur la question de l'auditeur?
Pour finir, madame, cette accusation insinue que Félix Tshisekedi veut diviser le pays en organisant un gouvernement d'union nationale. Mais l'initiative des évêques, bien qu'honorable, n'a pas produit d'avancées concrètes sur le terrain jusque-là. Il est donc légitime que le président cherche une alternative plus efficace pour fédérer les forces vives autour de la lutte contre l'agression rwandaise. Un gouvernement d'union nationale n'est pas une division, mais une stratégie de mobilisation générale pour que toutes les tendances politiques et sociales travaillent ensemble. Donc, accuser Félix Tshisekedi de vouloir diviser la RDC est paradoxal, alors que ceux qui dénoncent son initiative sont souvent les mêmes qui refusent d'y participer. En conclusion à tout cela, madame, la priorité aujourd'hui n'est pas de s'accrocher à une seule initiative, celle des évêques, mais de trouver des meilleures solutions pour défendre le pays. Le professeur venait de dire ici qu'il ne s'agit pas là d'une rébellion ou d'une opposition armée, il s'agit d'une agression. L'espace territorial congolais est agressé, violé. Comment expliquer qu'il y ait une mobilisation internationale qui aujourd'hui se traduit par les sanctions sur le gouvernement de Kigali, mais on a des Congolais qui se permettent de dire que ce n'est pas le moment de se mettre ensemble?
Alors, vous ne voulez pas pour le schéma dialogue, puis gouvernement d'union nationale. Pour vous, il faut directement former ce gouvernement d'union nationale.
Mais écoutez, madame, déjà ce dialogue dont vous faites allusion est entamé par le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, mandaté par le président de la République. Mais il faut dialoguer avec qui?
Mais c'est
avec
pas sous
ceux
ce
qui
format.
Le veulent d'abord, de
ce
un.
Pas sous ce
et deuxièmement,
format.
on ne peut pas dialoguer avec ceux qui tuent et égorgent vos populations avec le mandat d'un pays étranger. C'est aberrant.
Alors, le format dont parlent les évêques, je pense aussi l'opposition, c'est une sorte de rencontre où toutes les forces vont se retrouver pour échanger et non les consultations que font le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité.
Mais madame, écoutez, c'est trop simpliste d'emmener les choses dans ce sens-là. Si cette opposition pense ainsi, c'est que c'est justement pour que demain nous puissions tomber dans le même piège que Kigali nous a attendu depuis 1996, 2001, 2003, puis 2012, c'est-à-dire vous emmenez des factotums qui viennent discuter avec vous, mais qui demain vont quitter le bateau pour aller créer M25, M26. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons réussi, grâce à Félix Tshisekedi, à déterminer l'agresseur qui est Kigali et Paul Kagame.
Merci.
Grâce à la diplomatie du gouvernement, nous avons réussi à fédérer la communauté internationale autour de cette vision et autour de cette source de l'agression du Congo.
Merci. Mais Jean-Thierry Bonsenepo, on va prendre cet autre auditeur qui nous appelle de Kisangani, dans la province de la Tshopo.
c'est Maître Paulin Sengangabo. Je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. En analysant l'initiative du chef de l'État pour former un gouvernement de l'Union nationale, la seule question que je me pose, qu'est-ce qui manque au gouvernement soumis pour faire face à l'agression que nous impose le Rwanda? Ceci dit, nul n'ignore à ce jour que notre pays a déjà connu plusieurs gouvernements déjà d'Union nationale et ça n'a pas marché. D'où je trouve cette démarche inopportune, car elle ne constitue pas les vrais problèmes dont la population en est victime. Au contraire, cela risquerait d'amplifier encore la situation sécuritaire, d'autant plus que ceux qui sont appelés opposants aujourd'hui, la majorité d'eux ont des liens avec les rebelles du M23. Alors, donner opportunité pour les intégrer à la gestion des choses publiques, cela n'est qu'une façon de faire retourner le pouvoir au régime passé. Merci.
Alors, professeur Kouakoua, brève réaction. Professeur Kouakoua.
Qui vient de parler, c'est une...
Allô, professeur? Il y a...
Identifier l'agresseur. Je suis désolé. Je regrette amèrement que c'est aujourd'hui que eux, dans leur camp, ils viennent d'identifier l'agresseur. Mais c'est depuis très très longtemps. Il y a même des écrits que nous avions publiés depuis 2000-2001 que nous savions que le Rwanda agressait les Congos. Avec derrière l'AFDEL, c'était Kagame qui venait pour agresser les Congos. Donc voilà, c'est comme ça. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas celle qu'ils qualifient eux de la diplomatie, je ne sais pas quoi, qui a aussi échoué, mais c'est la passation même du pouvoir. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez comme vocabulaire, comme concept pour faire croire aux gens que non. Mais c'est ça d'ailleurs la grande faute. Tant on ne reconnaît même pas que le pouvoir de M. Félix, c'est pas un pouvoir légitime. Ça, c'est déjà trahir la nation congolaise. C'est déjà trahir le peuple qui n'avait pas voté pour lui. Et cette reconnaissance-là, si vous ne la faites pas, vous ne pouvez pas construire l'unité. Vous ne pouvez pas, monsieur. Je regrette. Kagame, c'est l'agresseur du Congo depuis très longtemps. Nous, avec Tshisekedi père, nous, avec Félix dans l'opposition, nous le savions, ce n'est pas une nouveauté. Il ne s'agit pas d'aller flirter avec Kagame, croyant qu'on allait changer Kagame. On le connaissait très bien, on savait qui il était. En acceptant de prendre ce pouvoir, on se mettait justement dans le panier de Kagame. Donc, cela étant, par rapport à la situation actuelle, madame, nous le disons, ce n'est pas en créant un gouvernement d'union nationale, surtout que quand ces rebelles n'étaient même pas au niveau du commandement, quand ils avaient pris Bounagana même avant, mais nous avons lancé les cris pour prendre, pour pouvoir nous mettre ensemble.
Alors, vous l'avez déjà dit, professeur. Donc, pour vous.
Les élections de 2023, nous avons failli appeler pour revenir. Ils trouvent ça comme une contradiction.
Professeur,
mais
pourquoi?
Ce qu'on sentait, on voyait, c'est qu'eux ne voyaient pas. Qu'ils s'étaient mis dans la gueule du loup. Qu'ils se sont fait enchaîner avec ceux-là même qui nous agressent, ceux-là même qui pillent les richesses du Congo.
Alors, pour vous, professeur, la formation d'un gouvernement d'union nationale n'est pas la solution à la crise actuelle que connaît la RDC. Vos conditions à vous de l'opposition, ou la condition pour l'opposition d'échanger avec le pouvoir en place, c'est ce dialogue que vous réclamez depuis longtemps.
Mais oui. Monsieur Tshisekedi lui-même, il a un problème. Si nous nous mettons autour d'une table sur l'initiative des évêques et des pasteurs, nous allons échanger, discuter et arriver à baliser le terrain. C'est de ça qu'il est question. Si jamais, se mettant ensemble, discutant ensemble, que les acteurs trouvent qu'il y a nécessité de mettre un gouvernement d'union nationale, on pourra le faire. Mais sinon, on va dire, ceux qui sont là continuent, mais voilà ce que nous mettons comme, balise, que cela ne soit pas, qu'on ne casse pas ça,
Pour que ça nous amène à ceci, à cela, c'est de ça qu'il s'agit. Le fait qu'aujourd'hui, qu'on ne se cache pas, les autres là qui ont pris une partie de notre territoire, mais on ne peut pas aujourd'hui faire comme si ça n'existait pas, comme s'il n'était pas là. On ne va pas s'enfermer dans des principes qui en fait sont en train de détruire le pays. Il faut stopper cette avancée que ça n'arrive pas jusqu'à Kinshasa. Au moment où nous sommes là, c'est le moment opportun pour qu'on échange, qu'on discute avec. Ce n'est pas leur donner la possibilité de venir jusqu'à Kinshasa. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ce que nous voulons faire, je ne sais pas, organiser l'armée ou quoi au niveau du gouvernement de Kinshasa. Les autres qui ont déjà pris une portion du territoire, ils font le même travail, ils sont en train de s'organiser. Soit ils vont continuer à gagner du terrain puisqu'ils sont en train de le faire. Ici, est-ce que vous pensez que les mêmes, quand on parle de la victoire diplomatique, tous ceux que nous rencontrons au niveau international, tous ceux qui sont en train de prendre des sanctions, nous demandent de négocier. Ils nous demandent de dialoguer. Est-ce qu'on ne comprend pas ça?
Merci, professeur.
Quel est le pays qui va nous donner des armes pour pouvoir aller chasser encore et reconquérir ces territoires? Mais nous devons être objectifs, réalistes et lucides.
Merci, professeur. On va aller à Kananga cette fois-ci pour prendre ce dernier auditeur qui appelle.
C'est Guy Kambouyi Manza à Kananga, au Kasaï central. Nous saluons l'initiative du chef de l'État d'unir notre classe politique afin de faire face à l'ennemi qui nous agresse. Cependant, l'opposition politique a peur dans la mesure où le chef de l'État se rétracte avec plusieurs accords politiques pris avec ses contractants, dont l'FCC Vital Kamerhe. C'est à titre raison que l'opposition doit avoir des réserves de peur qu'il puisse être roulé.
Professeur Kaloubé Béa, l'opposition rejette l'appel du chef de l'État. Entre-temps, le chef de l'État tient à ce gouvernement d'union nationale. Au cas où on n'aurait pas ce gouvernement d'union nationale, quelles pourraient être les alternatives possibles?
Non, mais aujourd'hui...
Il y a du bruit autour de vous, professeur.
Ça va. Aujourd'hui, un cadre juridique s'est déjà dressé. C'est la toute dernière résolution du Conseil de sécurité. Celle-ci a eu l'avantage d'identifier les partis en conflit. Disons-le comme tel. On a là. Elle est différente de la 1, 2, 3, 4 d'antan. Aujourd'hui, un cadre juridique s'est dégagé. C'est que vous avez vu que l'EAC et la SADEC ont mis en place un comité commun des négociateurs, et il y a une branche qui est restée, une parce qui a été identifiée comme M23, ainsi de suite. Je crois que sous cet angle-là, les protagonistes se sont identifiés, et le chef de l'État, qui est le garant, peut poser plusieurs actes pour arriver à fédérer tout le monde. C'est possible. Moi, théoriquement, je suis un partisan de la force. Si aujourd'hui on arrive à récupérer Bukavu, Goma, Bunagana, et on occupe Bukavu, il n'y aura plus tout ça. Mais tant qu'on n'a pas encore réussi à faire ça, et puis qu'il y a une possibilité de négocier, on peut aller vers les négociations. Mais prudemment, pour ne pas rééditer les exploits de 2001, 2003, ainsi de suite. Alors, les opposants qui estiment qu'ils ne veulent pas aller dans ces schémas, je me rappelle d'un ancien discours du RCD qui disait « les possibilités irréversibles ». Et aujourd'hui aussi, l'appel du chef de l'État est irréversible. Il faut qu'on aille, il faut que les opposants acceptent cet appel et avancent vers ces gouvernements-là. Ce gouvernement permettra effectivement de mieux appréhender certaines situations. Plus particulièrement, moi je peux vous dire, sur le plan théorique, que la guerre à l'Est, c'est un grand business. C'est peut-être un autre cas dans lequel on échangera de ça. C'est un grand business. Et tout ce qu'on a tenté par rapport à la guerre à l'Est, c'est mixé, brassé, a échoué parce que ceux qui ont été brassés sont devenus rebelles, ceux qui ont été missés sont devenus rebelles. C'est un grand business. Mais pour l'intérêt de la paix, suivre la voie proposée de l'État, faire taire les égaux de tout le monde et la voie judicieuse. Ça nous permet de gagner en temps et d'éviter beaucoup de déliquescences. Mais si, avec le nouveau chef d'État-major, on arrivait à à récupérer nos territoires. On ne parlerait plus de négociations. C'est comme ça que le cadre juridique est fixé. Il faudrait qu'on aille vers cette négociation-là qui ne fait plus l'ombre d'aucun doute.
Alors, nous sommes à la fin de l'émission, professeur Kaloumi. Quelles sont les
merci
chances c'est une dernière question que je vous pose. Ça sera votre conclusion.
Oui, allez-y.
Vous allez y répondre très brièvement. Quelles sont les chances de réussite ou de succès d'un tel gouvernement, gouvernement d'Union nationale, bien sûr?
En tout cas, il a toutes les chances possibles parce qu'il va intégrer les aspirations de ceux qui estiment qu'ils avaient des raisons de prendre les armes. Il va intégrer le plan du chef de l'État par rapport à la reconstruction et on peut arriver à des élections apaisées en 2028. Je pense que ça vaut la peine d'aller vers ce gouvernement-là et moi je le soutiens totalement.
Merci professeur Kaloumé, Jean-Thierry Monsenego, puisque vous soutenez aussi ce gouvernement d'Union nationale, vous êtes d'accord de la formation, hein, qu'on puisse former ce gouvernement d'Union nationale. Comment justement ce gouvernement peut-il renforcer la cohésion nationale à long terme?
Madame, d'abord je voudrais dire une vérité, c'est que je suis choqué que un professeur d'université, mon frère qui est cadre de l'ESID, puisse aujourd'hui parler d'une absence de légitimité de Félix Tshisekedi par rapport aux élections de 2018, alors que devant la Cour constitutionnelle, rien n'a été prouvé au contraire de ce qui s'est passé. Ce n'est pas ici à Radio Okapi qu'ils vont venir prouver quoi que ce soit. Pour répondre à votre question, Félix Tshisekedi, en prenant un gouvernement d'union nationale, madame, cherche à mobiliser toutes les forces politiques et sociales pour faire face aux défis internes et externes, notamment l'agression dans l'est de la RDC. Bien qu'il y ait déjà un gouvernement en place, l'idée de former une union nationale permet de dépasser les divisions internes et d'assurer une cohésion nationale dans la lutte contre les ennemis communs, notamment les forces agresseurs et les groupes armés étrangers. Dire aujourd'hui qu'il faille laisser de côté le président de la République qui est reconnu de par la Constitution être le garant de cette nation et celui qui doit veiller au bon fonctionnement des institutions. Et cette légalité, il tire cela d'une légitimité sortie des élections de 2023, reconnue non seulement par les instances de la République, mais aussi par les observateurs, dont les évêques de l'Église catholique et protestante. Laisser tout cet artefact-là pour aller vers les évêques qui, certes, ont des bonnes idées, mais ils n'ont pas cette assise de légalité et de légitimité dont jouit Félix Tshisekedi. Cela n'est qu'aberration et cela ne peut pas marcher.
Merci Jean-Thierry Monsenepo, Faustin, professeur Faustin Kouakoua, votre conclusion, hein. Soyez vraiment concis s'il vous plaît.
Oui, je conclue madame, je voudrais aussi rappeler que la légitimité elle est input comme elle est aussi output. Avec une justice comme lui-même là, qui est malade, politisée, qu'est-ce que ça peut donner comme valeur quand on sait que ce sont des caisses de résonance? Donc on ne peut pas évoquer ça. Ce n'est pas une justification ou une preuve de légitimité parce que c'est la Cour constitutionnelle de surcroît politisée. Aujourd'hui, nous disons, quand on parle de politique, il y a ce qu'on appelle la politique, il y a ce qu'on appelle le politique. Si le président a une... il est le garant, il agit dans les contextes de la politique. Mais le contexte du politique, les évêques, la société civile, tout le peuple a son droit, peut intervenir. C'est comme ça d'ailleurs, il y a l'article 64 et l'article 63 dans la constitution congolaise. Merci. Une initiative qui viendrait de là peut justement nous aider parce que tout le monde constate que le président lui-même, celui que lui appelle président, il est un problème. Ceux qui viennent avec les armes constituent un problème. La nation est en péril. C'est tout à fait normal que un autre regroupement puisse prendre l'initiative pour sauver cette nation.
Merci.
Et nous nous disons, au lieu de s'enfermer dans le zèle politicien inutile, le pouvoir pour le pouvoir, on doit se tourner vers la nation. La nation est en péril.
Merci. Merci.
Mettons-nous ensemble sur l'initiative des évêques. Trouvons la solution, sauvons la nation congolaise.
Merci, professeur Kouakoua. Merci beaucoup. Merci à Jean Bosco Ouahoua qui pense que le mal qui ronge la RDC, ce n'est pas le gouvernement de l'Union sacrée ou de l'Union nationale, mais le mode de gestion qui veut favoriser une catégorie des Congolais au détriment de toute la population. Docteur Innocent depuis Goma, je pense que ce gouvernement d'Union nationale ne doit pas être seulement un slogan, mais plutôt une solution pour mettre fin aux menaces du président rwandais Paul Kagame, des menaces extérieures, mais aussi une occasion pour se débarrasser de toutes ces personnes qui trahissent le peuple et la patrie. Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Freddy Bikumbi et Bertin Kassiama qui m'ont aidé à préparer ce magazine. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa et Polydor Basunga. Derrière les caméras, Jonathan Falani, Clément Chimanga et Hervé Vauquia. Martin Sebujangui a supervisé cette émission. Présentation et coordination, Kéline Couté. Restez branchés sur Radio Capi.